Vamos, compañeros, hay que poner un poco más de huevo. Los que cayeron son nuestra memoria. Desde la resistencia, la victoria, la victoria. Vamos, compañeros, vamos, compañeros. Hay que poner un poco más de huevo. Los que cayeron son nuestra memoria. Desde la resistencia, la victoria, la victoria. Vamos, compañeros. Hay que poner un poco más de huevo.
Alors voilà, on va continuer notre voyage en Argentine. La semaine dernière, on a entendu, entre autres choses, Emilio Taddei, qui nous a parlé des mouvements sociaux en Argentine et du phénomène des entreprises récupérées. On va continuer à écouter en partie son interview. Emilio Taddei, qui est membre du CLACSO, un groupe de sociologues et chercheurs en sciences sociales qui travaillent à l'échelle du continent latino-américain, et aussi un des animateurs des forums sociaux altermondialistes. Donc il était à Nairobi il y a quelques semaines, et donc on lui a posé la question justement sur la question de l'altermondialisme, comment il voyait ces choses-là.
Justement, je sais que par ailleurs tu t'intéresses à l'altermondialisme et tu es très investi là-dedans. Est-ce qu'il y a des éléments et toutes ces formes alternatives aux sociétés capitalistes sont quand même très en débat. Est-ce qu'il y a il y a quelque chose qui se dégage dans tous ces débats-là, dans le bilan qui peut être fait de ces entreprises récupérées, comme, je sais pas, un modèle, mais un type de réflexion qui peut apporter aujourd'hui
Oui, je pense que justement l'Argentine a été et toujours un laboratoire de ce qui est la contestation au néolibéralisme et au capitalisme néolibéral. Et même si on est dans une phase, comme je disais au début, je dirais un peu de reflux par rapport à ce qui a été l'expérience des années précédentes, toutes ces initiatives continuent. Bon. Elles sont traversées par des tensions ou ces tentatives de cooptation, mais il y a quand même des noyaux ou des foyers où ces débats autour de ce qui est la possibilité ou l'horizon anticapitaliste restent vivants. Et je pense que c'est une accumulation sociale et politique très importante. C'est difficile peut-être de comprendre vu de l'extérieur, parce qu'il faut savoir que l'Argentine a vécu et surtout la gauche et tout ce qui a été les mouvements populaires ont subi un coup énorme qui a été la dictature militaire. Pour comprendre les difficultés du mouvement populaire en Argentine pour se reconstruire, il faut comprendre qu'en Argentine, il y a eu 30 000 disparus. Et parmi ces 30 000 disparus, le 80% presque, c'était des délégués syndicaux antiboulocrates. Donc c'était une nouvelle génération politique et syndicale qui a été décimée, complètement décimée. Donc, et ça, on les voyait et on les voit très clairement lorsque on participe des réunions, des meetings, des collectifs et des manifs en Argentine. Il y a une génération qui manque. Donc, la possibilité de reconstruire les débats et les pratiques de la gauche en Argentine fait face à un vrai problème. C'est la disparition d'une génération des gauches, une génération anti-boulocratique sur les plans syndicaux, etc., etc. Donc, je pense que même... C'est pour ça qu'il faut être assez prudent lorsqu'on fait le bilan de ce qui a été 2001. Hein. Moi, j'ai jamais pensé que 2001, c'était la possibilité de construire, d'avoir un gouvernement socialiste en Argentine. Bon, d'ailleurs, je suis très méfiant, ou en tout cas très... par rapport aux expériences de construction d'un anticapitalisme à travers la prise du contrôle de l'État ou du gouvernement. Hein. C'est un problème beaucoup plus complexe. En fait, la construction ou la construction d'une société anticapitaliste passe, bien évidemment, par ces rapports conflictuels avec l'État, mais passe surtout, de mon point de vue, pour miner les bases de reproduction du capitalisme au quotidien. Et donc, et sur ces plans-là, je pense qu'on a fait une expérience très importante. Et tout ce qui a été créé ou qui a surgi au moment de la crise reste dans la mémoire collective et dans les débats et dans l'actualité. Donc, bon, en France, c'est pareil. Hein, en 1995, quand il y a eu les grèves, etc., etc., on pensait qu'on allait stopper les processus des privatisations. Mais bon, les processus sociaux et la dynamique sociale est beaucoup plus complexe. Donc, je pense qu'il faut voir la réalité argentine, justement, ou lire la situation et l'évolution politique argentine de ce point de vue-là. Je dirais que ce qui se passe, par exemple, en Bolivie à ce moment, c'est, de mon point de vue, un des processus les plus intéressants en Amérique latine. Mais une fois encore, il ne faut pas comprendre que c'est par la volonté politique d'Evo Morales seulement que les avancées en Bolivie vont se consolider. C'est même les gouvernements d'Evo Morales résument dans son sein un processus très complexe et très conflictuel d'affrontements et de négociations des mouvements sociaux boliviens par rapport à l'État. Il y a des tensions dans les gouvernements d'Evo Morales, mais je pense que c'est un cas où la dynamique sociale pousse encore et a suffisamment de puissance pour justement pousser les gouvernements à aller devant dans des questions qui sont clés pour surpasser un peu le modèle néolibéral.
Alors voilà, on est toujours en Argentine. On va continuer notre promenade dans les mouvements sociaux argentins avec Laura. Laura qui est une amie qu'on a rencontrée en Argentine, à Buenos Aires, et qui n'a pas de responsabilité, mais qui dans aucun mouvement, mais qui a suivi d'assez près tous les mouvements sociaux, toute la prise de parole publique qui a suivi la crise de décembre 2001. Et on va revenir avec elle sur le cas Menem qui a dirigé l'Argentine pendant plusieurs années, et toute l'affaire de la parité du peso et du dollar qui a amené jusqu'à la crise économique de 2001. Alors c'est une interview qui a été faite en fin de journée avec des traducteurs en fin de journée eux-mêmes, les vaillants Marion et Diego.
Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Piquete y cacerola, la lucha es una sola.
Cumbia que te va de ronda,
la lucha es una sola.
On est toujours à Buenos Aires. On est avec Laura Fernandez, qui, pour gagner sa vie, travaille pour une émission de radio, un programme de gauche, nous dit-on. Elle vit à Buenos Aires et on voulait un petit peu l'interroger sur comment elle a perçu, comment elle a vécu la crise en Argentine qui a eu lieu en décembre 2001, mais surtout tous les mouvements sociaux qui ont pu accompagner cette crise, éventuellement avant, mais tout ce qui en a suivi, les entreprises récupérées, les piqueteros et toutes ces choses-là, puisque c'est un petit peu ici à Buenos Aires que bat le cœur politique du pays. Alors peut-être qu'on va commencer par la crise, par qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2001 et qu'est-ce que ça a créé dans la population, en particulier cet enjeu qui semble central des classes moyennes, de quel côté allaient-elles se ranger au moment de la crise. Voilà.
Bueno, es muy conocido el periodo, los 10 años previos al estallido, que se llamó el estallido o el argentinazo. Fueron 10 años, en 1989 asume Carlos Menem como presidente de la nación, y bueno, su medida fue para tratar de contrarrestar la gran inflación por la que se había ido el gobierno anterior. Lo que hace es equiparar el valor del peso al valor del dólar.
Avant de parler de la crise, il faut parler de la période de 10 ans avant la crise, qu'ils appellent l'estatillo ou l'argentinazo. Alors la traduction, l'argentinissime, on pourrait traduire ça comme ça, qui est la période du pouvoir de Carlos Menem.
Alors il faut juste préciser que quand Laura dit Carlos Menem, elle se touche un sein, et quand les hommes disent Carlos Menem, on se touche les couilles, parce que dire Carlos Menem, ça porte malheur.
Exactement, le sein gauche et la couille gauche, toujours. Donc, pour lutter contre la grosse inflation de la fin des années 80, Menem pose la parité du dollar sur le peso.
Entre millones de medidas nefastas del gobierno de Carlos Menem, lo que fue más importante fue el proceso de privatizaciones. Todas las empresas nacionales pasaron a manos privadas, todas. Todos los servicios públicos a manos privadas. Además de eso, ya no convenía fabricar en el país y se produjo un gran proceso de importación. Por lo tanto, todas las fábricas del país fueron cerrando paulatinamente.
Parmi tout ce qu'a fait de mal Menem, le pire, le plus important, ça a été une privatisation globale. Tous les services publics nationaux, toutes les entreprises nationales sont passées dans des mains privées. Et tous les services publics comme le gaz, la lumière, les trains, les services essentiels sont passés au privé. Et en plus, ce qu'a fait Menem, c'est aussi, du coup, toute l'économie s'est jouée sur de la spéculation financière et non plus sur de la production, ce qui fait que tous les produits courants pour les Argentins devenaient des importations. Il n'y avait plus de production locale.
Bueno, eso produjo una desocupación enorme que nunca había conocido el país. Si bien, hago una mínima aclaración, todo este proceso tiene un origen en el 76 con el gobierno militar. Lo que hace Carlos Menem es profundizar ese proceso que ya había sido comenzado en el 76 con el gobierno militar.
Tout ceci a provoqué la baisse de la, le fait que les éléments de base ne soient plus produits localement a produit un chômage très important. Mais tout ça n'est pas simplement le fait de Menem. C'est tout ça tient son origine depuis le coup d'État de 76 et du gouvernement militaire. Menem n'a fait qu'aggraver la situation dans des proportions encore plus importantes.
Et parallèlement à ça. Lo que permitía la paridad cambiaria, es decir, el uno a uno, era en la clase media una sensación de poder adquisitivo. Por ejemplo, fueron muy frecuentes durante esa época los viajes al exterior, fundamentalmente a Estados Unidos, porque se podía adquirir la divisa estadounidense a un peso o un dólar. Entonces, eso generó cierta ilusión en la clase media de bienestar durante fundamentalmente los primeros 5 años.
Parallèlement à cela, la parité fictive construite par le gouvernement entre le dollar et le peso a donné à la classe moyenne une sensation d'avoir un pouvoir d'achat assez important. Et même si c'était une illusion, la classe moyenne a senti une forme de bien-être assez important, notamment à beaucoup voyager à l'étranger, aux États-Unis, parce que le gouvernement soutenait cette parité et ça leur a permis de... Ça donnait une illusion assez importante d'un pouvoir d'achat fort et ça a duré pendant au moins les 5 premières années de Menem.
Hago esta breve reseña de Menem porque es fundamental para explicar el 2001, ¿sí? Ya en el segundo mandato, cuando Menem es reelegido, se dice que no se lo elegía por sus acciones de gobierno, por supuesto, que ya se sabía que era la destrucción del país, sino porque todo el mundo estaba endeudado en dólares. Entonces, el alejamiento de Menem del Poder Ejecutivo, de la presidencia, podía suponer una devaluación y todo el mundo estaba endeudado en dólares y no se sabía à dónde podía ir el dólar.
Il faut expliquer vraiment ce processus avec Menem pour essayer de comprendre la crise en 2001. Quand Menem est réélu pour un deuxième mandat, en fait, ce qui s'est dit, ce qui semblait clair, c'est qu'il n'a pas été réélu pour ses actions gouvernementales parce que tout le monde dans le pays était endetté en dollars hein, et que si Menem ne retournait pas au pouvoir, toutes ses dettes en dollars risquaient de s'effondrer. Et donc, c'est pour cette raison qu'il a été réélu.
En el 95.
En 1995, réélection de Menem. Donc.
Desde el 95, el empobrecimiento del país fue claro, ya no había forma de detenerlo, y los actos de corrupción fueron muchos, obscenos. En el 99, asume De la Rúa con una campaña que decía, fundada en no a la corrupción, simplemente como asume como, no como propuesta política, creo yo, sino como oposición a la corrupción, esto que digo, su campaña era no más corrupción en el país. Se acabó la fiesta menemista.
À partir de 95, donc, et la réélection de Menem, on constate un réel appauvrissement du pays assez important et la multiplication des actes de corruption qui sont donc de plus en plus nombreux et complètement obscènes par rapport à la situation du pays. Et en 99, De la Rúa fait campagne pour dire non à la corruption. Pas tellement sur un programme politique, mais vraiment sur une opposition forte à la corruption qui devient de plus en plus importante dans le pays.
La corruption siguió, por supuesto. No hubo ningún cambio en la economía política del país. La pobreza siguió profundizándose. Y, De la Rúa no pudo tomar ninguna acción de gobierno que detuviera el empobrecimiento del país. Hablo de esto porque no es el 2001 solamente. La sensación del estallido venía sintiéndose y venía el uno a uno para todos los que más o menos podíamos evaluar que era ficticio profundamente, hacía ver que en no mucho tiempo el país iba a llegar a un estallido.
Avec Delarroix, la corruption continue. Il n'y a pas de modification profonde dans la structure du pays et l'appauvrissement continue. En fait, Delarroix n'a pas les moyens de mettre en œuvre, ne met pas en œuvre un programme politique. Et elle explique tout ça parce que 2001, c'est pas seulement la crise. Tout ça a des racines avant et les Argentins l'ont vu venir. Et avec Delarroix déjà, il voyait venir la faillite de l'État avec un approfondissement de plus en plus fort et le risque d'une dévaluation qui mettrait le pays à genoux.
Pour diciembre del 2001, se juntaron dos factores. De las clases más bajas, la pobreza extrema que hizo reaccionar a las clases más bajas. Y por otro lado, Domingo Cavallo, ministro de Economía de Carlos Menem, después vuelto a llamar por De la Rúa, porque se decía que el padre del modelo económico era el único que podía sacar al país de ese modelo económico, lo que hizo fue, había amenazas de devaluación.
En décembre 2001, deux facteurs importants ont joué. D'une part, les classes populaires connaissaient un approfondissement de plus en plus fort et ça devenait insupportable. Et d'autre part, Carlos Domingo, ministre de l'Intérieur, qui était par ailleurs déjà ministre sous Menem et qui ensuite s'est retourné pour appeler à voter pour De la Rúa, donc est ministre de l'Économie sous De la Rúa.
En fait, Domingo Cavallo, qui était ministre de l'Économie de Menem, est rappelé par De la Rúa comme étant celui qui pouvait redresser la situation économique, ayant été le père fondateur de l'économie menemiste.
Frente entonces a esta inminente devaluación, porque ya el país no podía sostener este uno a uno, la clase media quiere retirar la plata que había depositado en los bancos en dólares y Domingo Cavallo toma la medida de lo que se llamó el corralito. La gente ya no podía sacar su dinero de los bancos.
Face à l'imminente dévaluation du pesos, qui est toujours fondée sur cette parité fictive entre dollars et pesos, la classe moyenne essaie de retirer de leurs comptes, des banques, toutes leurs économies en dollars. Et pour répondre à ça, Domingo Cavallo, donc le ministre de l'économie, gèle, ça s'appelle le corrido, c'est le corralito, si, gèle complètement les possibilités de sortir de l'argent et gèle tous les comptes des Argentins.
Entonces, hablaba antes de estos dos factores que se juntaron. Por un lado, la clase media enojada porque no podía retirar su dinero y la clase baja en un estallido profundo frente a la situación que ya era insostenible. El 18 de diciembre del 2001 empezaron a haber saqueos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que es un distrito mucho más pobre.
Donc on revient sur ces deux facteurs qui amènent au 2001, donc une classe moyenne énervée et fortement angoissée de ne pas pouvoir retirer son argent, et la classe pauvre, de plus en plus pauvre, qui amène au 17 décembre 2001, où commence dans la capitale de Buenos Aires, mais aussi aux alentours, dans ce qu'on appelle la provincia, la banlieue de Buenos Aires, on commence à voir donc des émeutes et des pillages des supermarchés, surtout dans la province de Buenos Aires, qui est la partie la plus pauvre, en fait, de la capitale.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et alors, on dialogue toujours avec Laura qui nous raconte la belle histoire des classes moyennes argentines rencontrant les pauvres.
Vamos, compañeros, hay que poner un poco más de huevo. Los que cayeron son nuestra memoria. Desde la resistencia, la victoria, vamos, compañeros. Como decía, el 18 empezaron a haber saqueos. El 19 de diciembre, espontáneamente, la clase media sale a las calles
golpeando cacerolas para reclamar mejores condiciones. La clase media no decía solamente que su reclamo era el del dinero en los bancos, sino que quería mejores condiciones. Personalmente, creo que fue la primera vez en la historia, por lo menos de lo que yo viví, que la clase media tuvo conciencia, tuvo solidaridad con la clase baja. Se vio en alguna relación con la clase más pobre. Dejó de mirar a las clases altas como objetivo y vio que había alguna relación porque el país venía en un empobrecimiento que les estaba llegando.
Donc à partir du 19 décembre, la classe moyenne descend dans les rues spontanément pour commencer ce qu'on appelait symboliquement les cacerolas, donc commencer à crier avec les casseroles, non pas seulement pour réclamer l'argent qui leur appartenait, mais aussi pour réclamer des meilleures conditions de vie. Et c'est la première fois, selon elle, que la classe moyenne se solidarise de la classe basse et arrête de regarder la classe bourgeoise comme un modèle, mais se solidarise avec l'ensemble des pauvres en Argentine.
De hecho, el cantito era piquete y cacerola, la lucha es una sola, porque la manifestación de las clases bajas era con piquetes, un corte de rutas que ya venía ocurriendo desde hace bastante tiempo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
Donc le mot d'ordre symbolique de ces manifestations, ça a été donc piqueter et casserole, la lutte est unie. Puisqu'avant, déjà le décembre 2001, les classes les plus basses avaient commencé à faire des blocages dans les rues, dans les routes, pour revendiquer leurs propres droits. Donc ceux-là, on les appelle les piquetés. Et donc le mot d'ordre, c'était classe moyenne et pauvre, la lutte est unique. Piqueter et casserole, la lutte est unique.
Bueno, el 19 de diciembre, entonces, espontáneamente la gente sale a las calles y marcha hacia la Plaza de Mayo. Por supuesto, es conocida la represión policial, todos los muertos que hubo en la plaza, pero en distintos puntos del país también. De la Rúa renuncia, como también lo habrán visto todos, yéndose con un helicóptero desde la plaza, desde la Casa de Gobierno. Había renunciado ya el ministro de Economía, fue el primero que renunció. Y una de las cosas que a mí me parece más simbólicas era, hay una avenida que atraviesa todo Buenos Aires y que viene desde la provincia de Buenos Aires, que es la avenida Rivadavia, que es el símbolo de la clase media. Al norte de la avenida Rivadavia está el mayor poder adquisitivo, al sur el menor poder adquisitivo, y la avenida Rivadavia simboliza la clase media.
Donc à partir du 19 décembre, descente spontanée dans les rues à partir du 19 décembre, à la place de Mai et dans plusieurs endroits du pays, et là commence la répression avec le nombre de morts qu'on connaît. De la Rúa et Carvalho renoncent et s'en vont. On se souvient de l'exemple où le président de la Rúa s'échappe en hélicoptère du palais présidentiel. Et comme l'exemple symbolique de ces journées, ça a été l'occupation de l'avenue centrale de Buenos Aires, qui s'appelle l'avenue Rivadavia, qui divise la capitale entre une zone pauvre et une zone riche au nord, pauvre au sud. Et les gens commencent à se réunir autour de cette avenue qui conduit jusqu'à la place de Mai, donc, et qui est le centre de pouvoir de politique de Buenos Aires.
Et cette fameuse rue Rivadavia qui divise donc la capitale fédérale Buenos Aires en deux parties le symbole de la classe moyenne. C'est vraiment la rue qui représente la classe moyenne à Buenos Aires.
Quand les classes más bajas venían desde la provincia de Buenos Aires por la avenida Rivadavia, la gente desde los edificios, la clase media, se sumaba a la lucha de las clases más bajas, o por lo menos resalto esto e insisto con lo simbólico, ¿no? De la primera vez que parecía que se podía establecer una lucha conjunta y que las clases medias podían estar, podían poner su fuerza del lado de las clases populares.
Quand les classes populaires en fait arrivent de la province de Buenos Aires, donc la banlieue en fait, par la Via Rivadavia, les habitants de Rivadavia, donc la classe moyenne, descendent de leurs immeubles pour s'unir et rejoindre les classes populaires. Et symboliquement, là, c'est très fort, puisque c'est la première fois qu'on peut imaginer qu'il y a une lutte commune, des intérêts communs à construire entre les classes populaires et la classe moyenne.
El 20 de diciembre también fue una jornada de protestas con muertos también, mucha represión policial y es conocido entre el 20 de diciembre y los primeros días de enero del 2002 la sucesión de mandatos presidenciales que hubo. No puedo decir con rigor exactamente cómo fueron, pero fueron 5 y vale decir que no había vicepresidente porque había renunciado por un acto de corrupción, una ley de flexibilización laboral que se había votado años atrás por coimas en el Senado.
Donc le 20 décembre, rejournée de mobilisation, rejournée d'union populaire, manifestation, répression, et à partir du 20 décembre, jusqu'au début janvier 2002, l'instabilité politique fait que 5 présidents se succèdent coup pour coup, car il n'y avait pas de vice-président, en fait, dans la Constitution, puisqu'une ley de flexibilité laborale avait été votée, de flexibilisation laborale avait été votée, et qu'on appelle la loi de corruption, en fait. Coima, c'est un terme argot pour dire corruption, qui avait enlevé constitutionnellement le rôle de vice-président.
En fait, l'instabilité politique est due aussi à l'absence de vice-président, puisque un peu avant la crise, le vice-président avait fait passer une loi qu'on appelait, que les Argentins ont appelée loi Banelco. Banelco, c'est la carte, c'est le nom d'une banque, c'est la carte pour tirer de l'argent, parce que c'est une loi de flexibilisation générale du travail, la ley de flexibilisation laborale. Donc qui détruit tous les droits des travailleurs, tout le droit du travail, et que le vice-président avait fait passer à l'époque par la corruption en payant tous les sénateurs pour qu'ils votent comme un seul homme. Donc c'est pour ça que les Argentins ont appelé ça la loi Banelco, qui est la loi de la carte bleue, en fait. Et comme il n'y a pas de vice-président constitutionnellement, il n'y a pas de successeur après le départ de la Rúa, et ça ouvre donc une période d'instabilité importante jusqu'au premier jour de janvier 2002, puisque au moins 5 présidents se succèdent les uns après les autres sans trouver d'issue à la crise.
Manifestation, répression. Rejournée de manifestation, d'union, re-répression, remords.
Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente, con su mágico esplendor. La llegada del valiente pescador. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna y solo su atarraya. Habla con la luna.
Certains quand même continuent à penser, à espérer ou à croire que les idées de 2001 et les formes dans les 2001 restent latentes aujourd'hui dans le pays. Et qu'elles reviendront avec plus de force en étant plus mûres, plus matures, et qu'elles reviendront définitivement.
Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia que se llama el alegre pescador la compuse una mañana, una mañana de sol. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya.
Y
Allez, on continue, on est toujours à Buenos Aires avec Laura et nos deux vaillants traducteurs qui ont beaucoup souffert, Marion et Diego. On va continuer cette discussion avec Laura qui va nous parler des assemblées de quartier, des assemblées de voisins qui se sont créées à Buenos Aires à partir de 2001-2002.
Algunas asambleas hicieron trabajos muy interesantes. Por ejemplo, es conocido la asamblea de la zona sur de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de hospitales. Hicieron un relevamiento de las necesidades de los hospitales. Bueno, muchas asambleas trabajaban en festivales para recaudar fondos, ver las necesidades puntuales, y luego se juntaban todos en el Parque Centenario, un parque en el centro de la ciudad, donde cada asamblea discutía lo que había discutido previamente en su barrio.
Ces assemblées donc de quartier occupent des maisons abandonnées dans chaque quartier pour y mener des activités culturelles, ouvrir des cantines, des bibliothèques, organiser des activités culturelles pour rassembler des fonds, éventuellement transformer certains lieux en lieux de soins également pour la population. Et toutes ces assemblées de quartier se retrouvent dans un parc, dans un grand parc de Buenos Aires, pour discuter ensemble de ce qui a été discuté au niveau local dans chaque quartier et donc se retrouver tous ensemble et rediscuter ce qui a déjà été évoqué dans chaque assemblée.
Lo mejor de la época era el pueblo en las calles. Las calles estaban habitadas y había una sensación de propiedad, sí, entre comillas, de la calle. La calle volvía a ser del pueblo.
Le plus fort de cette époque, de ce moment, c'était véritablement le peuple dans la rue. C'est-à-dire qu'il y avait un sentiment très fort de propriété. La rue appartenait enfin au peuple et tout le monde sortait de chez lui pour discuter. Il y avait une vraie occupation de la rue pour des discussions politiques, des échanges, des débats.
Luego, más adelante, asume Eduardo Duhalde, un gobernador durante muchos años de la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos con mayor fuerza electoral del Partido Justicialista. Eduardo Duhalde fue durante muchísimos años vicepresidente de Carlos Menem, asume como presidente y fundamentalmente, nuevamente es una opinión personal, lo que se intentó, y como siempre con la ayuda de los medios, es tranquilizar a la clase media y volver a desvincular las reivindicaciones de las clases populares con las necesidades de la clase media.
Donc ensuite, Eduardo Duhalde, qui a été longtemps le gouverneur de Buenos Aires, qui a aussi été le vice-président de Menem et qui, pour la province de Buenos Aires, est certainement le candidat qui a la plus grande force électorale parce que c'est le candidat du parti justicialiste, donc du parti péroniste. Donc Eduardo Duhalde, en fait, essaie de tranquilliser la classe moyenne, c'est sa principale action, notamment pour essayer de détruire les liens qui s'étaient construits entre la classe moyenne et les classes populaires, et d'essayer de faire en sorte que la classe moyenne revienne à ses préoccupations d'avant la crise et se détache des préoccupations des classes populaires.
Notamment avec le soutien des médias de communication.
Como siempre, se empieza y con el discurso de la inseguridad, siempre de por medio, se demoniza a las clases populares. Hay ciertas propuestas de devolución de ese dinero que había quedado encerrado en los bancos. Bueno, nuevamente, entonces, esta separación lo que hizo perder fuerza en la lucha. Además de esto, los partidos políticos de izquierda empiezan legítimamente a querer organizar las asambleas, ¿sí? A tratar de hacer crecer la lucha, hacerla más adulta y que no quede simplemente en un reclamo espontáneo. Eso, con los medios de comunicación, empieza a ser mal visto por determinadas asambleas que lo ven como una apropiación de la izquierda de una lucha legítima, entre comillas.
Comme à chaque fois dans ces cas-là, le président Duhalde utilise le thème de l'insécurité et la criminalisation des classes populaires pour essayer de détacher la classe moyenne des classes populaires. Et parallèlement à ça, il y a les partis politiques de gauche notamment qui essaient de s'impliquer et d'essayer de faire grandir la lutte et la forme d'organisation des assemblées de quartier. Cet investissement des forces politiques de gauche dans la lutte est complètement décrédibilisé par le gouvernement avec l'aide des médias, et du coup est mal vu par les assemblées qui disent que c'est une tentative de récupération d'une organisation populaire spontanée. Voilà. Et donc, ils accusent les partis de gauche de récupération politique.
Algunas asambleas, pocas. Siguieron funcionando, otras quedaron desarticuladas por completo. Ya la lucha no era más una lucha conjunta. De todos modos, quedaron ciertas organizaciones muy valiosas, que hago una breve referencia. La lucha en el puente Pueyrredón, una organización política que ha sido un trabajo social muy importante y que durante la presidencia de Eduardo Duhalde, en una represión policial, matan puntualmente elegido a dos dirigentes muy importantes de esa organización que ha sido un trabajo social, como dije, muy importante.
Cette propagande, en fait, marche assez bien. Certaines assemblées continuent malgré tout de fonctionner, mais d'autres arrêtent et sont complètement désorganisées. Et un exemple assez fort, c'est une lutte sociale très importante qui a eu lieu, qui est la lutte du pont Pueyrredón, qui est une rue de Buenos Aires, qui a fait un travail social très important avec l'aide de partis de gauche. En fait, sous la présidence d'Duhalde, à l'occasion d'une manifestation, la répression est très dure. Et les deux dirigeants principaux de cette lutte sociale, qui étaient les plus politiques aussi, sont tués pendant la répression de la manifestation.
Et pour terminer, si bien de el momento para algunos fantástico que se vivió en aquel momento por la gran movilización, si bien ahora parecería acabado, retomo algunas voces que dicen que toda esa situación del 2001 está latente. No se terminó, sino que fue un primer momento, una primera instancia para algo que todavía está latente y que algunos creemos que tenemos esperanza, ¿no? Porque a los griegos no les gusta la esperanza, pero algunos creemos que se va a desarrollar más adultamente y definitivamente.
Aujourd'hui, où on a l'impression que toute cette énergie, cette effervescence de 2001 et toutes ces organisations démocratiques, enfin internes, sont terminées, n'existent plus. Certains quand même continuent à penser, à espérer ou à croire que les idées de 2001 et les formes d'organisation de 2001 restent latentes aujourd'hui dans le pays et qu'elles reviendront avec plus de force en étant plus mûres, plus matures et qu'elles reviendront définitivement.
Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Piquete y cacerola, la lucha es una sola.
Allez, une tentative de plus, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front, et on rejoint cette fois-ci Emilio Taddei, On l'interrogeait tout à l'heure sur l'altermondialisme et cette fois-ci, on lui a demandé de nous dresser un petit peu le panorama de l'Amérique latine et des évolutions récentes en Amérique latine.
D'Europe, on entend parler, bon, il y a eu l'élection de Lula en premier et puis il y a eu, je ne l'ai dit pas forcément dans l'ordre chronologique, mais Bachelet, Evo Morales, Chavez bien sûr. Depuis peu, il y a eu avant-hier, donc début janvier, l'investiture de Rafael Correa en Équateur. Nous, on entend surtout les noms en Europe. On a un peu du mal, sans vouloir tous les mettre dans le même panier, parce qu'on est quand même bien conscient qu'il y a des nuances lourdes, importantes entre chacun de ces personnages. Mais on a un peu du mal à voir quelles sont les forces et les tensions en présence derrière ces noms. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Est-ce qu'il y a un frémissement généralisé au niveau de l'Amérique latine, de choses qui se passent, de mouvements qui se mettent en œuvre et qui permettent l'émergence de ces personnalités? Voilà, si tu peux nous dire un mot un peu de la conjoncture globale dans le continent.
Bon, pour répondre à cette question qui n'est pas évidente, je dirais qu'il faut comprendre que l'Amérique latine depuis les années 90, la moitié des années 90, a été, je pense, je l'ai dit très sincèrement et sans aucune prétention d'exclusivité, mais je pense que l'Amérique latine, justement à cause de l'intensité des politiques néolibérales et de la condition périphérique qui occupe l'Amérique latine dans la division internationale du travail et le capitalisme, a été un des continents qui a les plus expérimenté du point de vue des luttes populaires en ce qui concerne la contestation au capitalisme néolibéral. Et donc cette contestation a pris des formes différentes et a fait émerger même une question qui était taboue et qui était cachée en fait par la construction de l'État colonial en Amérique latine, des États nationaux tels qu'ils avaient été créés depuis les guerres de l'indépendance, qui est la question indigène ou des peuples autochtones. Et donc, et ça, je pense que c'est une originalité de cette vague ou de ces cycles des luttes sociales et des contestations antinéolibérales en Amérique latine. C'est-à-dire que pour la première fois, et après en fait un raz-de-marée des politiques néolibérales qui a complètement déstructuré les sociétés et les rapports sociaux et les mondes du travail, il y a eu un cycle des luttes où, surtout dans les pays indiens, la composante indigène émerge avec une force, mais pas une force seulement identitaire, comme on veut nous faire croire parfois dans les médias systémiques, etc.
Bourgeois,
voilà. C'est pas seulement une question identitaire, c'est une question de classe. Donc, il y a bien évidemment la composante identitaire, parce que c'est des peuples qui ont été soumis par les pouvoirs postcolonial en Amérique latine, mais il y a un rapprochement ou une identification entre la question ethnique et la question des classes. Et donc, ça permet, sur les plans intellectuels en Amérique latine, de rouvrir un débat au sein de la gauche, au sein de la pensée critique, sur le débat sur la lutte des classes. Qu'est-ce que c'est la lutte des classes aujourd'hui et quelles sont les particularités de la lutte des classes en Amérique latine aujourd'hui? Donc c'est... c'est difficile et facile de parler de l'Amérique latine, parce que bien évidemment il y a un passé d'oppression et un passé colonial qui est commun, mais il y a quand même des dynamiques et des régimes politiques qui sont tout à fait différents et qui expriment en fait des rapports de classe, des rapports de domination qui sont différents. Donc on ne peut pas analyser l'Argentine et l'Équateur comme si c'était la même chose, mais il y a des traces communes et surtout il y a un phénomène en fait qui est un peu homogénéisé, c'est la mise en place des politiques néolibérales qui a pris au-delà des particularités, mais qui a eu quand même un sens d'homogénéisation de la problématique de l'oppression et de l'exploitation en Amérique latine à partir des années 80-90. Bon, cela dit, les dynamiques contestataires ont suivi des chemins différents. Les réactions des classes dominantes dans chaque pays a été différente. Mais je dirais que, bien évidemment, les changements de gouvernement auxquels on assiste aujourd'hui en Amérique latine sont une démonstration d'un changement de rapport de force au niveau régional. Cela ne veut pas dire dans tous les cas que l'investiture de ces gouvernements signifie une sortie des politiques néolibérales. Prenons le cas du Brésil. Le gouvernement Lula a marqué une continuité. Moi, je dirais que avec les gouvernements de la concertation au Chili, c'est les, si on prend la carte latino-américaine, c'est les deux pays où il y a eu moins de ruptures avec les politiques néolibérales. Mais bon, bien évidemment, il y a une responsabilité politique de Lula, mais il faut comprendre que le triomphe, le premier triomphe électoral de Lula aux élections présidentielles a coïncidé au Brésil avec un moment de reflux du mouvement populaire. C'est-à-dire que les deux grandes composantes du mouvement populaire qui se sont construits pendant les années 80, c'est-à-dire la CUT, la Centrale Unique des Travailleurs, et le MST, étaient affaiblis justement par la mise en place des politiques néolibérales. Et donc, les stratégies politiques et sociales de ces deux grands mouvements sociaux étaient un peu affaiblis par l'impact des politiques néolibérales. Donc, ce n'est pas seulement de la faute de Lula. Bon, bien évidemment, je pense qu'il y a des limites et une éthique publique qui Lula a complètement jeté à la poubelle. Mais parce que sinon, on reste attaché à la figure de Lula. Et le problème, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus dense du point de vue de la réflexion politique et théorique. Donc, la difficulté, justement, de rompre avec les politiques néolibérales au Brésil est due, justement, à cette conjoncture et à la difficulté, aux difficultés des mouvements sociaux. Et il faut souligner aussi qu'il y a des composantes, surtout dans le cas de la CUT, il y a eu aussi, dans les années 90, toute une politique, la mise en place d'une politique de cooptation des dirigeants et des cadres, même des cadres de la gauche syndicale de la CUT, au modèle de co-gestion des entreprises. Donc ça fait partie en fait de la compréhension des difficultés qui existent aujourd'hui au Brésil pour aller au-delà des politiques néolibérales. Et moi, je suis vraiment préoccupé parce que là, lors de deux dernières semaines, on voit que les gouvernements Lula insistent ou met en place en fait, une politique de militarisation dans les traitements de la pauvreté. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans les favelas, qui est présenté comme le problème du narcotrafic, etc., qui est présent, bien évidemment, mais il y a un traitement qui vise à criminaliser la pauvreté et donc à occuper militairement les favelas, comme ce qui se passe en ce moment au Brésil. C'est ensemble des gouvernements qui est très hétérogène, exprime d'une façon ou d'une autre, de façon générale, une tentative de changement, en fait, un changement de rapport politique par rapport au modèle néolibéral dur. Mais il y a des nuances. C'est pas, bien évidemment, l'expérience de Chavez au Venezuela, c'est pas la même expérience que Kirchner ou que Evo Morales en Équateur ou que Lula. Je pense qu'il y a un point de vue régional qui est intéressant, c'est cette convergence pour confronter un peu, et là aussi il faut faire des nuances, mais avec la politique impériale des États-Unis. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des secteurs de la bourgeoisie latino-américaine qui sont intéressés à confronter en ce moment avec les États-Unis, justement pour défendre des marchés, des parts des marchés qui seraient vissées en fait par le traité de libre commerce. Donc, pas nécessairement, et ça on le sait depuis des années, pas nécessairement un politique ou un discours anti-impérialiste, c'est une politique anticapitaliste. Mais ça permet de créer des conditions régionales pour les mouvements sociaux, en fait, des meilleures conditions pour ouvrir le débat sur les problèmes de l'intégration. Et là-dessus, bon, c'est, je dirais que une des questions sur lesquelles les mouvements populaires ont à intervenir en Amérique latine, c'est justement le débat sur l'intégration. Parce que parfois, l'intégration, et même par les gouvernements progressistes ou de gauche, est présentée comme le sursaut ou la possibilité de sortir du néolibéralisme. Mais, et ça, on connaît bien les cas de l'Europe, on peut aller à la construction d'un modèle d'intégration régionale ou continentale qui peut servir comme excuse pour approfondir les politiques néolibérales. Et c'est clair qu'en Amérique latine, il y a des secteurs du pouvoir économique qui veulent justement approfondir un modèle d'intégration qui bénéficie les entreprises transnationales. Donc, je pense que, et ça, on l'a vu lors des différents forums, bon, à Porto Alegre, dans le Forum social mondial et puis dans les forums sociaux continentaux, que les mouvements populaires, les convergences des mouvements populaires en Amérique latine ont dans l'agenda cette discussion. Il n'y a pas de point de vue homogène là-dessus, hein, non plus. Parce qu'il y a les intérêts nationaux qui traversent un peu les discussions. Et ça, on le voit clairement, par exemple, avec l'expérience des nationalisations des entreprises pétrolières en Bolivie. C'est intéressant de voir que les accords, en fait, pour Evo Morales et les gouvernements boliviens, étaient plus faciles de nouer des accords avec les entreprises transnationales européennes qu'avec Petrobras, l'entreprise pétrolière brésilienne. Pourquoi ? Parce que justement, Petrobras, le 30% du gaz qui est consommé dans l'industrie à Sao Paulo vient de la Bolivie. Donc le prix du gaz est décisif pour la dynamique économique et la reprise brésilienne. Donc là, il y a eu des tensions très fortes entre les États, entre les gouvernements Lula et les gouvernements Evo Morales. Et donc le mouvement social brésilien a été, je dirais, décisif, hein, pour incliner un peu la balance. La balance, voilà. Mais bon, c'est des points de tension et des négociations permanentes. Un dernier mot sur une question d'actualité, c'est le mot d'ordre du socialisme du siècle XXI, lancé par Chavez lors de l'investiture. Je pense que c'est tout à fait intéressant. Moi, je pense que c'est une grande possibilité, un grand débat qui doit s'ouvrir au Venezuela et en Amérique latine. Je pense que on ne peut pas concevoir le socialisme du siècle XXI, où on ne peut pas réduire les débats sur cette question à la création d'un parti politique qui, évidemment, est très attaché à la figure de Chavez. Donc, je pense plutôt à un processus de construction démocratique du socialisme. Et ça, je pense que j'ai des doutes par rapport à l'effet réel qu'un processus qui a été annoncé de façon très vite peut avoir sur la société vénézuélienne. Je pense que l'expérience des mouvements vénézuéliens est très riche et on ne peut pas... et ça, on a connu des expériences mal réussies en Amérique latine. Je pense que, justement, il faut ouvrir le cadre démocratique de force de gauche pour mener ces débats. On ne peut pas dire que celui qui n'est pas d'accord avec ces débats ne peut pas rentrer dans les partis. C'est beaucoup plus complexe. Donc, j'espère que la propre société vénézuélienne, les secteurs populaires au Venezuela, auront une maturité politique pour, justement, mener à bien ces débats et cette construction politique.
Mais juste sur la question des mouvements sociaux, est-ce qu'il existe des connexions entre les mouvements sociaux de tous ces pays? Il y a la facilité de la langue, ce que nous, on ne peut pas connaître en Europe. Mais est-ce qu'il y a vraiment, on peut dire qu'il y a des mouvements qui existent presque à l'échelle continentale?
Oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est une des particularités de l'Amérique latine. Prenons l'exemple de l'Europe, par exemple. la gauche européenne et les mouvements sociaux anti-néolibérales en Europe n'ont pas réussi pour le moment à mettre sur place des coordinations solides comme c'est le cas ou comme existe en Amérique latine. Et ça, je pense que c'est un des atouts et une des particularités. Bien évidemment, comme tu disais tout à l'heure, il y a des questions culturelles, il y a la langue qui favorise ces convergences, mais ce n'est pas seulement des questions culturelles. Je pense qu'il y a quand même des questions qui sont liées aux luttes concrètes, hein, à l'affrontement des classes concrètes qui possibilitent ou qui permettent, qui facilitent ces processus de convergence. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'expérience du forum, bon, ça, il faut pas, je dis pas ça pour avoir le label d'exclusivité, mais du point de vue historique, c'est pas du hasard si le forum social mondial s'est créé à Porto Alegre, même s'il y a eu bien évidemment des composantes internationales, et ça, c'est l'intérêt. Mais je pense que la profondeur des luttes et de la remise en question du néolibéralisme en Amérique latine est très important. Et ça a favorisé justement ce dont tu parlais tout à l'heure, le processus des convergences. Par exemple, la lutte contre la ZLEA, la zone de libre-échange des Amériques, qui a été réussie en fait depuis un an et quelques mois. En fait, la ZLEA a été enterrée à Mar del Plata, une ville de l'Argentine où s'est tenu le sommet des présidents de l'Amérique, où Bush était présent. Il y a eu une manifestation. En fait, il faut dire que Mar del Plata, c'est comme s'il y avait à Nice une réunion de chefs de l'État européen. Bon, il y a eu, voilà. Et c'est une station balnéaire. Et on a réussi à faire une manif avec 40 000 personnes. Et il y avait des gens de toute l'Amérique latine. Donc, la mise en échec de la ZLEA a été un point fort d'un processus de coordination qui vient de loin et dont une des composantes est l'Alliance sociale continentale, l'Alliance sociale continentale, qui a été justement le premier réseau qui s'est créé pour lutter contre la ZLEA. Et je peux dire qu'il y a une victoire quand même. Hein, je ne dirais pas qu'en Europe, les effets soient... Par exemple, les référendums contre la Constitution, en fait, sur la question de la Constitution européenne n'ont pas encore réussi en Europe à créer un mouvement de rejet continental par rapport à la construction de l'Europe libérale. Bon, ici, en Amérique latine, on a intérêt, la ZLEA. Bon, ça ne veut pas dire que la question du libre-échange est exclue de l'agenda, parce que les États-Unis ont tout de suite relancé l'idée des accords bilatéraux de traités de libre-échange, comme c'est le cas avec la Colombie qui a signé les traités et puis le Chili. Mais en 2007, normalement, on devait être déjà dans une zone de libre-échange sur les plans continental et ce n'est pas le cas. Et ça, c'est dû justement aux luttes sociales et à la mise en place des coordinations sur les plans continentaux. Il y a les cas que je citais tout à l'heure de l'Alliance sociale continentale, mais il y a aussi des expériences de convergence par rapport aux bases militaires. Il y a un réseau qui s'appelle la CADA, la coordination des Amériques contre les bases militaires. Il y a aussi l'expérience des luttes contre la dette extérieure, qui a été le terrain aussi de coordination continentale. Il y a aussi des coordinations, par exemple, contre l'exploitation minière des transnationales en Amérique latine. Bon, je pourrais citer des tas d'expériences de coordination. Et ça, je pense que c'est quand même un trait particulier de l'Amérique latine. Et ben, nous espérons, et je pense que tous les mouvements sociaux en Amérique latine qui participent de cette dynamique espèrent justement pouvoir élargir et que les expériences latino-américaines puissent servir avec les points avec les points en commun et les différences à l'élargissement et la consolidation du mouvement anticapitaliste sur les plans internationaux. Et je pense que bon, là, le forum en Afrique, c'est une tentative de fortifier le mouvement social africain et les résistances en Afrique. Bon, c'est un continent beaucoup plus complexe, où les dynamiques du pouvoir colonial sont encore plus pressantes qu'en Amérique latine, et justement où la politique de l'Union européenne, et l'affrontement en fait, entre les intérêts de l'Union européenne et les États-Unis, fait des ravages. Donc, mais bon, c'est quand même une tentative.
Alors évidemment, voilà des débats un petit peu plus enthousiasmants que les nôtres. Royal ou Sarkozy, Bayrou ou Nicolas Hulot, fromage ou dessert. C'était donc Emilio Taddei. Vous retrouverez toutes les informations concernant cette émission sur le site loldf.org. Il y a des liens vers le CLACSO, le centre de recherche en sciences sociales qu'anime Emilio Taddei, et puis quelques autres liens sur les mouvements sociaux et politiques aujourd'hui en Argentine. Ça sera donc sur loldf.org. Et puis d'ici quelques semaines, vous retrouverez également en ligne ces émissions, celle de cette semaine et celle de la semaine dernière sur l'Argentine.
Vamos compañeros, hay que poner un poco más de huevo. Los que cayeron son nuestra memoria, desde la resistencia a la victoria, vamos compañeros.
Et mais oui, retentit le magnifique générique des Oreilles Loin du Front. Ça veut dire que l'émission est terminée. C'était donc les Oreilles Loin du Front, une émission récupérée et très largement autogérée ce soir, avec autour des micros les piqueteros de la Radio Libre, Cédric, Guillaume, Alexandrine, Jérémy et Juliette. Et puis un pied sur la console, l'autre sur la platine, la casserolasse de la radio à petit budget, c'était Juliette. Ce soir, dans le rôle du commissaire politique, nous avions exceptionnellement Séverin. Et puis ce soir aussi à nos côtés, seule représentante du collectif des traducteurs fatigués en l'absence de Diego, il y avait avec nous Marion. Alors voilà, c'est l'heure d'Écho du Capricorne. On abandonne l'antenne à Claudia, parce que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.